Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir deux passages dans notre Bible, dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Et je voudrais vous faire part d'un souci qui était le souci primordial, si je peux m'exprimer ainsi, de l'apôtre Paul. C'était l'authenticité et l'intégrité de la prédication de l'Évangile. Et nous allons justement prendre en considération que ça vaut aussi pour nous dans notre temps. Paul a donné pas mal de recommandations, d'exhortations par rapport à la vérité, cette authenticité dont je parlais dans la prédication de l'Évangile. L'Évangile est un trésor, et nous en sommes tout à fait conscients, et il ne peut pas être assimilé à toutes sortes de choses. On ne mélange pas la paille et le froment, comme nous dit quelques paroles de l'Ancien Testament. Et Paul, véritablement, savait que l'efficacité de l'Évangile, c'était de le garder authentique dans la prédication. C'est-à-dire que, voilà, il écrira, je crois, aux Corinthiens, il dira ceci, que nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme certains le font. Alors, où en sommes-nous dans notre temps, dans notre monde aujourd'hui? Je pense que je ne veux pas trop penser à tout ce christianisme qui est autour de nous, où les gens, ou peut-être ceux qui sont préposés à représenter ou à parler de ce christianisme, font de moins en moins référence à la parole de Dieu ou simplement des citations, mais leurs commentaires quelquefois s'évadent de droite et de gauche. Alors c'est pas tellement pour eux, mais c'est surtout pour nous, dans les temps qui vont venir, et dans la suite, que nous devons avoir un sens aigu, je dirais peut-être même un sens critique, pour garder la vérité de la croix qui sauve dans la personne de Jésus. Alors vous allez comprendre, d'abord dans un premier texte, nous allons lire dans Romains, et n'ayons aucune crainte et n'ayons aucune honte de notre profession et confession de foi, dans Romains chapitre 1, premier, et verset 16, et vous connaissez ce passage, Paul dira, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance, ou si vous aimez mieux, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, plus du grec, juif, grec, les païens par exemple, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. » On a bien compris qu'il s'agit de la foi. Le message de l'Évangile transmet, communique la foi qui sauve. Alors c'est vrai pour les Juifs, c'est vrai pour les Grecs que nous sommes, enfin on n'est pas Grecs, mais enfin on est dans le monde finalement, monde païen si on peut dire, mais nous sommes chrétiens. Et il est dit que c'est une puissance, c'est la puissance pour le salut. Il n'y a pas 36 choses. Et il nous est rappelé que Paul dira hautement, il dira « mais moi je n'ai pas honte de l'Évangile ». Aucune honte de dire, de confesser ce que je crois, ce que je vis, parce que c'est une bénédiction pour le monde entier, et à commencer par ceux qui m'environnent. Il y a un autre passage dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Il est dit ceci, c'est Paul qui recommande à un jeune pasteur, un jeune prédicateur qui s'appelle Timothée, et il dira ces mots, « Prêche la parole, dis la parole, annonce la parole, proclame la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, et vous avez remarqué, il est donné un qualificatif d'approche, exhorte avec douceur et en instruisant. On comprend ce que ça veut dire, qu'on n'est pas là pour bourrer la tête des gens avec des menaces ou des lois, mais véritablement le faire avec cœur, avec douceur et en instruisant, pour que les gens en aient la connaissance, la vraie connaissance. Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils supporteront plus. Ayant la démangeaison, le terme est approprié, d'entendre des choses agréables, et ils se donneront une foule de docteurs qui détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, c'est-à-dire des légendes et des mythes. Et j'y ajoute ceci, parce que vous allez comprendre le sujet, des mythes chrétiens, des mythes religieux, parce qu'on ne va pas parler de politique, hein, ou de social ou autre chose, mondain. Bon, des mythes chrétiens, d'une façon ou d'une autre, faire des légendes, et qui va balayer la foi authentique en Jésus-Christ, et qui va être remplacée par toutes sortes de choses qui font rêver, qui, voilà, démangeaison d'entendre des choses agréables en quelque sorte. Or, l'évangile est certainement la chose, la plus belle chose qui soit, parce qu'elle est agréable au cœur et à l'esprit de l'homme, mais ça peut être très désagréable pour ceux qui n'en veulent pas, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Alors on va prendre un autre passage, c'est dans Corinthiens, chapitre 17, et nous allons en quelque sorte suivre ce que l'apôtre Paul nous dit par rapport à cette authenticité. 1 Corinthiens, chapitre 1er, d'accord ? Voilà. Et c'est un texte qui est quand même assez difficile à comprendre. Mais je voudrais me faire simple. Je demande au Seigneur qu'il me donne la simplicité du langage, parce que quand Paul, c'est vrai, parfois ses manières d'écrire sont quelquefois un petit peu compliquées. Alors on va essayer de faire simple pour que vous compreniez que ce que Dieu nous a donné, c'est un véritable trésor, et il ne faut pas l'altérer, il ne faut pas l'arranger à notre manière. Voilà, on peut dire et lui faire dire des choses que finalement, eh bien, il y a on n'a pas, eh bien là, à faire ou à dire. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17, je vais lire au fur et à mesure et je vais commenter, si vous voulez bien. Paul dira, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Voilà ce que Paul dit. Et je vais parler à la manière de Paul, si vous permettez. Hein, j'emploierai comme si Paul nous parlait ce matin, en quelque sorte, parce qu'il l'écrit de cette manière. Hein. Il dit, mais Christ m'a envoyé, moi, Paul, l'apôtre. Et on va essayer de prendre son langage. Vous avez remarqué, il y a deux actions qui sont éminemment chrétiennes, enfin, en tous les cas, évangéliques. C'est évangéliser et baptisé. On l'a vu, ce n'est pas pour baptiser, dira Paul, mais pour évangéliser, c'est-à-dire pour annoncer l'évangile. Ça, c'est important de le savoir. Je crois que Paul avait en vue deux choses qu'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue dans notre monde chrétien, dans notre monde évangélique, c'est-à-dire, il ne faut pas mélanger les choses, elles sont complémentaires. C'est-à-dire évangéliser une chose, et après vient le baptême, naturellement, quand les gens sont convertis. On est bien d'accord pour cela. Et le souci qui doit être le nôtre, et pour les futurs pasteurs, pour les futurs enseignants de l'Église de demain, eh bien, c'est véritablement donner la priorité et avoir en vue à la fois la qualité et la quantité. Je dis cela ce matin parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a tout un mouvement, tout un courant, où on veut bien de la quantité, mais qu'on se moque un peu de la qualité. Parce que pour être baptisé, il faut que ce soit des gens, des hommes, des femmes, quelle que soit leur histoire et leur passé, qui soient repentis, qui soient convertis à Jésus-Christ, qui soient nés de nouveau, et qui part de là, eh bien là, véritablement, le sceau suprême de Dieu, baptisé du Saint-Esprit. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démarche, je le dis, j'ai plus rien à perdre, marketing évangélique. C'est-à-dire que peu importe, pourvu qu'il y ait du monde, pourvu qu'il y ait un auditoire, pourvu qu'il y ait des gens qui viennent, qui se pressent, etc., etc., quelle que soit la démangeaison qu'ils ont d'entendre des choses agréables, eh bien, permettez-moi l'expression, tant que nous prêcherons l'évangile, je dis comme Paul, que quelque part, eh bien, on n'est pas là pour plaire aux gens. On est là pour leur apporter le message de Jésus-Christ qui peut les rendre heureux, transformer la vie, leur vie, et leur donner l'éternité. Alors bien sûr, il y a peut-être des choses qui défrisent, même ceux qui ne sont pas frisés. Mais Paul avait le souci, finalement, de la qualité avant tout, et de ne pas la baptiser n'importe qui, n'importe quoi et n'importe comment. Oui, les trois sont bons, hein. Et de faire en sorte que les gens qui demandent les eaux du baptême soient des gens qui aiment profondément Jésus. Et que ce n'est pas un attachement à l'Église qui est important, c'est un attachement à la personne de Jésus. Il arrivera peut-être des temps où, dans les circonstances qui nous sont décrites dans l'Apocalypse, nous n'aurons plus d'Église. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne sera pas visible, c'est pas pour ça qu'elle ne sera pas réelle. Comprenez ce que je veux dire? Donc, qualité et quantité. Peut-être dira-t-on que je suis un vieux de la vieille et que quelque part, faudrait changer de méthode. Je suis tout à fait d'accord. Je suis pas le dernier à prendre les méthodes modernes pour faire connaître l'évangile et évangéliser. Vous le savez. J'en fais pas de bruit, mais on le fait. Il faut vivre avec son temps. Maintenant, est-ce que vivre avec son temps, c'est de faire comme les grandes dénominations qui ont traversé ces 20 siècles de christianisme, qui, soit par la force, par la violence ou par la séduction, ont fait rentrer n'importe qui avec des gens, finalement, qui n'étaient pas convertis. Je pense, baptiser des enfants à 8 jours pour en faire des chrétiens, excusez-moi. Moi, à 8 jours, je savais pas tellement ce que... J'étais un petit peu encore dans les... Hein? Vous aussi, je suppose. Donc ça, c'est un détournement de la parole de Dieu, vous comprenez? Ça, c'est une falsification. La semaine dernière, on a établi la théologie, ou on pourrait dire la doctrine de la Sainte Cène. Eh ben, c'est pareil. Ça fait suite un petit peu à ce que nous avons dit dernièrement. Évangéliser, c'est jeter le filet. D'accord? Comme Jésus l'a montré si bien avec des belles paraboles. Baptiser, c'est recueillir le poisson. Excusez-moi un petit peu la métaphore, hein. Ces poissons qui sont pris et qui vont être mis dans des vases. Et je crois que Dieu, eh bien, a donné aussi des communautés. Alors le mot vase, naturellement, il a sa valeur que nous voulons lui donner. Mais évangéliser et ensuite vivre dans communauté, vivre dans une église où on va pouvoir entendre un enseignement pour construire notre vie spirituelle. C'est pas parce qu'on a 8 jours de baptême ou 15 jours ou 1 an de baptême qu'on a la maturité spirituelle. Ce qui est important, c'est que la vie de l'esprit, qui a commencé déjà avec l'écoute de l'évangile, la conversion, la repentance, etc., etc., se développe pour en faire des hommes et des femmes faits en Jésus-Christ. Ça va jusqu'ici? Eh oui. Ce qui importe pour l'apôtre Paul, c'est évangéliser. Tant que dans cette église, on évangélisera à la manière que Dieu nous inspirera, eh bien, à ce moment-là, l'église sera vivante, elle continuera, parce qu'elle est capable d'enfanter des enfants. Et vous savez, quand on ne peut plus enfanter d'enfants, c'est que y a un problème à ce moment-là. Hein. L'église vieillissante, l'église moribonde, l'église mourante. Et ça, il faut avoir cette idée. Et je ne veux pas vous donner une méthode marketing pour savoir comment faut faire pour évangéliser. Vous parlez autour de vous, vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui vous écoutent, des gens qui ne vous écoutent pas, mais ceux qui vous écoutent, eh bien, ils viennent écouter l'évangile et après, à leur tour, ils peuvent juger de la fiabilité du message, non pas du pasteur, mais la fiabilité d'abord de votre témoignage, dans votre vie que vous leur démontrez, et puis la fiabilité de la parole de Dieu qu'ils entendent. Et c'est comme ça qu'ils vont grandir. Mais ce qui n'importe pas moins l'apôtre Paul, c'est bien d'évangélisation. Écoutez, en s'effaçant lui-même. Il faut qu'il croisse, nous dit Jean-Baptiste en parlant de Jésus, et que moi je diminue. Et quand vous avez des pasteurs qui prennent toute la place, et qu'il a Jésus est en arrière-plan, moi je dis que ça ne va pas, parce que Jésus nous dit, l'apôtre Paul nous dit, qu'il s'efface lui-même pour mettre en avant l'essentiel qui convertit les gens, c'est la prédication de la croix de Jésus-Christ. La croix, c'est la mort. Mais pour nous, la croix, c'est pas seulement la mort, c'est la résurrection. Et nous faisons des hommes, et nous amenons des hommes, non seulement pour qu'ils meurent à eux-mêmes, on va pas les crucifier, hein, mais qu'ils meurent à eux-mêmes pour qu'ils ressuscitent à une vie nouvelle. Et ça, c'est la vie de l'Esprit. Nous allons voir que dans ce verset 17, il y a deux sagesses opposées. Dans le monde, il y a plusieurs déclinaisons de l'intelligence. Il y a l'intelligence charnelle, qui est séduisante, hein. C'est celle que l'on apprend dans les écoles et que l'on apprend dans la vie. Et puis il y a l'intelligence de l'esprit. Il y a la sagesse du monde, qui a ses raisons d'être, et puis il y a sagesse de l'esprit. Il y a la morale du monde, et puis il y a cette éthique supérieure, infiniment supérieure, qui est celle spirituelle. D'ailleurs, Paul le dira, ce n'est pas ma mission particulière de baptiser, mais c'est de proclamer la bonne nouvelle, et c'est pour cette bonne nouvelle que Dieu m'a appelé. On se souvient de la conversion de l'apôtre Paul. Tu iras vers les nations, vers les rois de la terre, et tu leur raconteras, tu leur diras, etc., etc. Alors, comment faire? Et de quels moyens pouvons-nous atteindre ce but et rester, finalement, dans la crédibilité spirituelle? Parce que nous avons quand même des capacités intellectuelles. Ouais, on sait lire et écrire. On peut parler. On peut faire la démonstration de ceci et cela, comme font les grandes religions qui ont des millions et des millions d'adeptes, hein, ça c'est clair. Mais ce n'est pas à recourir à des artifices oratoires du savoir bien parler ou une argumentation habile telle qu'on l'apprend dans les usages et dans les écoles, dans les instituts, dans les facultés de théologie et tout cela. Je crois que c'est l'esprit qui nous donne la qualité, la qualification. Ouais. Combien de collègues, combien moi-même, vous m'auriez entendu quand j'avais 20 ans et que je commençais à prêcher, je peux vous dire que peut-être certains d'entre vous, ça fait sourire mon épouse parce que je la vois, ils ont été patients, hein. Parce que je ne savais pas parler. Et je ne sais toujours pas parler. Enfin, un petit peu plus. Mais toujours est-il que Paul le dira, ce n'est pas avec la sagesse du langage humain que je vous ai annoncé l'évangile. Parce que bon, c'est peut-être très agréable. C'est pour ça qu'on a entendu, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est pas parce que quelqu'un parle bien que véritablement, eh bien, il est sous l'onction du Saint-Esprit et que c'est l'Esprit qui, quelque part, cet Esprit-là qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors, artifice oratoire. Si nous voulons nous qualifier, nous pouvons toujours nous qualifier, c'est pas un mal. Mais dans la mesure où véritablement la priorité, eh bien, c'est de laisser le Saint-Esprit vous conduire. Peut-être certains vous me diront, mais moi je ne sais pas parler pour rendre témoignage. Eh bien justement, c'est bien que vous ne soyez pas parlé. Pourvu que vous soyez rempli du Saint-Esprit, vous allez dire des choses qui seront étonnantes à ce moment-là. Et vous en recevrez une joie, la joie du Saint-Esprit, d'avoir été faible et que Dieu vous a rendu fort. La manifestation de l'Esprit, et vous savez, Paul le dit, hein, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et quand on compte sur notre force, c'est là où nous sommes faibles. Et que Dieu ne peut rien faire, puisque finalement, on l'encombre, on lui barre la route. La croix de Jésus-Christ, c'est quand même assez ennuyeux de parler de ça, ne doit pas être dévalorisée et frustrée de son pouvoir. Elle doit rester authentique. Alors, je ne parle pas de la croix religieuse superstitieuse où on va là devant un crucifix où il y a encore le Christ comme s'il n'était jamais ressuscité, on l'a laissé là. Hein. Non, Christ n'est plus sur la croix. Hein. Si nous voulons de nous donner l'emblème de la croix, l'emblème et la signification profonde de la croix, c'est que quelqu'un est mort à notre place et qu'il a expié nos péchés, c'est tout. Mais ne pas en faire un sujet d'idolâtrie, ne pas en faire un sujet où on se prosterne et on prie Jésus parce qu'il est sur la croix. Non, il n'est plus sur la croix. Alors, faut pas mélanger les genres. Il y a toute une version sagesse religieuse, et puis il y a la dimension de la vie de l'esprit à ce moment-là. Alors, il ne faut pas que le pouvoir de la prédication en Jésus-Christ, eh bien là, véritablement, soit dévalorisé. C'est ce que nous avons dit il y a un instant. Il ne faut pas que mon éloquence, ma manière de parler, finalement, eh bien, frustre ce pouvoir de frustration que l'évangile, lorsqu'il est prêché par des petits comme des grands, des orateurs ou des gens qui ne savent pas parler, qu'il soit véritablement, eh bien là, diminué, mis en dessous. Parce qu'il y a des gens qui parlent bien, hein. Il y a des gens qui sont de véritables orateurs, alors c'est pas seulement sur le plan religieux, mais sur le plan politique. Vous avez des gens, et on écoute, on se dit, mais c'est extraordinaire. Ah oui, mais c'est extraordinaire, il peut venir de l'homme, mais nous, il faut que chez nous, c'est différent, il faut qu'il vienne de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. On l'a lu, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas une plaisanterie. Et souvent, lorsque nous sommes devant des auditoires, quels qu'ils soient petits ou grands, ou lorsque le prédicateur tremble, eh bien, vaut mieux qu'il tremble que d'avoir l'assurance d'être sûr de lui. Et c'est vrai que c'est quand même un sacré quart d'heure. C'est pas facile. Et vous, c'est la même chose lorsque vous rendez témoignage. Comment vais-je faire? Eh bien, ne vous posez pas de questions parce qu'alors même, nous dit Jésus, eh bien, la parole vous sera donnée. Vous connaissez le texte? C'est dans Luc et dans Matthieu. Et c'est ça, justement, ce qu'il faut comprendre. Et il ne faut pas perdre cette dimension, cette conception que nous avons, que Dieu nous a donnée, eh bien, que c'est lui qui va nous conduire et qui va nous diriger. Le verset 18 et 19 nous dit ceci, « Car la prédication de la croix, c'est ça dont il s'agit ce matin, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents, nous dit l'apôtre Paul. Deux sagesses opposées. Deux sagesses opposées, la croix, le cœur, finalement, de l'évangile, où Paul nous parle d'une puissance et d'une sagesse qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de Dieu. Cette sagesse, fausse sagesse, vraie sagesse, la sagesse de Dieu est une folie, nous dit l'apôtre Paul, aux yeux des sages de ce monde. Ils se disent, mais ils sont timbrés, enfin, excusez-moi, hein. Ils sont malades. Il y a des gens qui aujourd'hui, certainement, s'ils savaient qu'il y a des millions et des millions de gens qui se réunissent dans les églises pour célébrer Jésus-Christ, hein. Enfin, je parle des athées, hein, ou des libres penseurs. Ils se disent, mais comment peuvent-ils consacrer, après une semaine de travail, quelques instants, deux heures, là, pour écouter un homme qui parle, et puis prendre la Sainte Seine, chanter des cantiques? Il y en a qui pensent que vraiment, on est complètement tombé sur la tête, hein. Ça, c'est sûr. Alors qu'on pourrait faire du sport, on pourrait faire de la gym, on pourrait aller, je sais pas, moi, faire du footing, là, sur le bord de la mer, c'est sympathique, hein. Donc. Nous, et ne soyez pas déconcertés, c'est pour ça que Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile. Je vais être critiqué, je vais être jugé, même dans ma famille, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils m'ont vu avant et puis ils me voient maintenant après. Il est tombé, il est mystique, hein. Il est mystique, mais nous on n'est pas mystique, hein. Donc c'est une folie. Faut bien vous dire que la foi que vous avez confessée en Jésus-Christ, eh bien, vous pouvez passer pour des fous. Ben, c'est comme ça. Nous voyons que Paul est tout à fait conscient de sa responsabilité de prêcher, d'annoncer l'évangile, et il s'en tient au message de Dieu qui lui a été confié, sans se laisser arrêter par des critiques de tous ceux qui sont autour de lui et qui ne comprennent pas les critiques, parce que vous êtes chrétien. Ah oui, réjouissez-vous quand on dira toutes sortes de mauvaises choses à cause de mon nom. Oui, c'est ainsi qu'on a traité les prophètes. Alors n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de l'évangile. Vous l'avez fait en connaissance de cause. C'est vrai que c'est pas facile. Et là où c'est encore le moins facile, c'est dans notre propre famille. C'est pas simple, hein. Quelquefois, on essuie des rires ou des sourires entendus à travers toutes sortes de petites réflexions, etc., etc. N'allons pas les provoquer en montrant tout notre grand savoir, hein, parce que là, ils vont se plier en deux. Hein. Oui. Parce que quelquefois, on n'est pas sage non plus, hein. On n'est pas sage. Quelquefois, on allume des petits incendies et on en a le retour. Parce qu'on n'est pas préparé. Parce qu'on pensait que finalement, on allait les convaincre. Non. C'est pas le pasteur qui va convaincre les gens, c'est pas l'Église qui va convaincre les gens, c'est pas finalement votre témoignage qui va convaincre les gens, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Même si on a eu un environnement avec des gens qui nous ont porté secours, qui nous ont aidés, qui nous ont pris en considération, qui ont vu que nous avions des besoins spirituels. Alors, c'est vrai, ils en font partie et ils nous sont chers dans notre cœur, même si ça fait 40 ou 50 ans. Mais une chose qui est certaine, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit. Alors, il faut le rappeler parce que on est peut-être en voie où on est en train d'abandonner tout ça pour faire les choses par nous-mêmes. Avec notre intelligence, notre savoir, notre connaissance, notre érudition, notre façon finalement de concevoir les choses. En ce qui concerne, et je voudrais toujours revenir et mettre en parallèle cette sagesse religieuse, parce qu'on est dans un contexte qui s'y prête ce matin, et l'Écriture nous avertit de l'incompétence finalement de toute cette sagesse et cette intelligence religieuse. Mais Jésus l'a bien démontré, hein, quand il est venu pendant 3 ans sur la terre, je peux vous dire que les scribes, les pharisiens et les uns et les autres, il les a mis véritablement, il leur a dit ce qu'il leur a dit leur fait. Hein. Vous détournez les hommes avec vos légendes, avec vos mythes, avec vos traditions, avec tout ce que vous avez inventé finalement. Vous avez détourné la parole de Dieu au profit de votre religion, on le sait ça. Moi, je voudrais dire que depuis la création, Dieu a déployé des trésors de sa sagesse admirable. Et elle est autour de nous, la sagesse de Dieu. Elle est autour de nous. Mais les hommes, en regardant même ce que Dieu a fait dans cette nature qui nous environne, dans laquelle nous sommes nous-mêmes impliqués, ils n'ont pas pu reconnaître Dieu. C'est ce que nous dit finalement Romains. Les hommes sont donc inexcusables, parce que Dieu s'est révélé à travers sa grandeur, à travers sa divinité, à travers sa puissance. Et ils sont visibles, ils sont détectables comme à l'œil nu, en quelque sorte. Et les hommes continuent à dire, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Alors, vous savez, le cœur de l'Évangile, c'est que Dieu s'est mis à la recherche depuis les temps immémoriaux, à la recherche de l'homme, précisément à travers le plan que nous connaissons, la prédication de la croix. Et ça, c'est fou. Dieu aurait pu faire autrement pour sauver l'humanité. Je suis Dieu, je bouleverse la terre. Il l'a déjà fait, hein, avec Noé, par exemple. Et puis, il le fera encore. Mais toujours est-il que le message de Dieu a été présenté dans la façon la plus ridicule qui soit. Regardez un homme qui meurt à la croix. Il n'y en a pas eu, hein. Il y en a eu des millions et des millions à travers. Un homme qui est condamné, il est innocent, mais on le condamne quand même. Un homme qui est venu nous dire les paroles du ciel, nous apporter l'amour sur la terre, nous dire ce qu'était la justice de Dieu, nous dire des choses ineffables. C'est une folie. Parce que l'homme veut que ça soit fort, que on gagnera le ciel, on gagnera le paradis, à travers la force, à travers des batailles, à travers des combats, à travers la loi. C'est totalement faux. On passe pour des enfants, hein. Notre message est un message angélique. On nous prend pour des bénis oui-oui. On nous prend pour des gens qui sont éthérés, qui ne sont pas... Voilà. Eh bien, c'est précisément justement dans cette faiblesse, et c'est précisément dans ce message, dans ce type de message, dans ce caractère de message, que Dieu recherche l'homme, et depuis toujours. Et encore aujourd'hui, à travers le message de l'Évangile, parce que ça paraît fou de dire, eh bien voilà, un homme est mort pour moi, je crois en lui, et à cause de ce que il est mort pour moi, mes péchés sont pardonnés, et aujourd'hui, je peux véritablement affirmer que j'ai la vie éternelle. C'est tellement simple, c'est tellement désuet. Les gens haussent les épaules en disant, mais vous n'allez pas me faire croire ça. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu sauve les hommes. Les choses ont été prises à contre-pied. Parce qu'on va le voir d'ici quelques instants, on va voir ce que c'est qu'un sage, ce que c'est qu'un intelligent, selon le principe du monde. Vous allez voir que ça va très loin. Hein. Alors, on l'a appelé la folie de la prédication de la croix, c'est le grand miracle de l'amour de Dieu qui pardonne tout. L'amour divin, la sagesse suprême qui transforme les insensés en sages et les pécheurs en saints. Excusez-moi. Mais C'est ça ce que Paul annonce. Alors, je voudrais vous dire ce matin encore, avant d'aller à un autre verset, n'ayez pas honte de l'évangile. Même si on vous dit que vous êtes fou, que vous êtes tombé sur la tête, que votre place serait plutôt là dans une maison de santé mentale, parce que c'est ce qui est dit quelquefois. Vous savez que au moment où je suis en train de vous parler, il y a une violence inouïe des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, et on veut s'en débarrasser par la force et la violence. Nous, dans notre pays, c'est pas la force et la violence, bien qu'on l'ait connu dans les guerres de religion. Mais aujourd'hui, c'est la moquerie. C'est la ridiculiser les gens. C'est moral. Mais ça fait mal aussi. Toujours le verset 18, il nous est dit que cette histoire de la croix est absurde. Oui, absurde à ceux qui sont perdus. Ben, c'est justement parce qu'ils sont perdus que ça leur semble absurde. Alors, il taxe de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Nous avons la vie sur la mort de quelqu'un, vous vous rendez compte, c'est complètement à l'envers. Oui, nous avons la vie parce que quelqu'un est mort. Et c'est lui qui nous donne la vie, et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté mort. Et c'est le seul. Et nous croyons à la résurrection, à la force, à la puissance de la résurrection. Alors, c'est vrai que c'est une doctrine, et Paul le dit dans son temps. Lui, il avait affaire à deux catégories de personnes, et on va les déterminer. Il avait affaire aux Juifs qui étaient ses concitoyens, et lui, c'était avant tout un Juif orthodoxe, avant de se convertir à Jésus-Christ. Avant de devenir chrétien, attention, il tenait quelque chose, et même dans l'érudition, et dans cette élévation intellectuelle. Et puis ensuite, il était apôtre des païens, c'est-à-dire qu'il allait vers les Grecs, c'est-à-dire vers les païens. Il avait les deux, de chaque côté. Et nous voyons que il annonçait ce message, tout simplement. Et il dira en quelque sorte que c'est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il met bien le mot « croire ». Parce qu'on n'est pas sauvé par la loi, on n'est pas sauvé par ce que l'on fait, on est sauvé par ce que l'on croit. C'est par la grâce que vous êtes sauvé, nous dira Paul. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, un cadeau, un présent de Dieu, afin que personne ne se glorifie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'orgueil dans le monde chrétien religieux. Quand on voit les sanctuaires, quand on voit les palais religieux, quand on voit ce qui se passe à l'intérieur, les trésors accumulés sur des siècles et des siècles, est-ce que l'évangile a besoin de se glorifier de cette manière? Est-ce que Jésus a eu tout cela? Est-ce que Jésus nous a tenu un langage en disant, bien voilà, votre prospérité sera la plus grande bénédiction de Dieu et ce sera la preuve que vous êtes véritablement des chrétiens? Quelle audace! Quel scandale! Jésus n'avait rien où reposer sa tête. Il était finalement, et bien là, en errance quelque part, et pourtant son message, son trésor, il le partageait dans la plus grande simplicité et pauvreté. Quel orgueil, ce christianisme aujourd'hui, qui est fait avec des temples, avec des palais, qui finalement, et bien là, sont identifiés comme une puissance, mais quelle puissance? C'est une puissance humaine, une puissance politique si on veut, mais pas une puissance spirituelle. Ça, ce sont les choses extérieures. Et Dieu dira, n'est-il pas écrit, « Je confondrai la sagesse des sages, je réduirai à néant le savoir des intelligents, je détrônerai la raison des philosophes et je rendrai caduque la science des savants. » Vous savez, tout est parti avec la séduction dans le Genèse, chapitre 3, quand le serpent vient voir Ève, ensuite Adam, pour lui dire « Mais vous pouvez manger du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, connaissance, du savoir. Vous pouvez en manger, il n'y a pas de problème, parce que Dieu a-t-il réellement dit ?» Parce qu'à ce moment-là, quand vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Vous ne mourrez point. Et vous aurez finalement la connaissance du bien et du mal. Eh bien, on a croqué dans ce fruit-là et on s'est aperçu qu'il était pourri. Parce que c'est pas l'intelligence, c'est pas la sagesse humaine qui sauve. c'est la foi en Jésus-Christ. La grande illusion de la pensée humaine, nous y venons à travers trois versets. Où est le sage? Où est le scribe? Celui qui sait, celui qui écrit, hein, naturellement, scribe. Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Mes frères et sœurs, si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce qu'un jour nous avons entendu l'Évangile, ou nous avons lu l'Évangile, ou nous avons entendu l'Évangile par un témoignage d'un chrétien authentique, et nous y avons cru, la folie de la prédication. Alors, les Juifs demandent les miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et puis on verra la suite d'ici quelques instants. Où est le sage? Où est l'interprète de la loi, le scribe, on pourrait dire? En fait, parmi l'Église de Jésus-Christ, des hommes qui sont sauvés, ce que nous sommes ce matin, et sans prétention, parce qu'on n'est pas sauvé par nous-mêmes et à cause de nos mérites, on est sauvé parce qu'on a véritablement cru que Dieu, dans notre misère, eh bien, nous aimait et qu'il nous pardonnait. Alors, Paul dira, mais où sont parmi vous dans l'église de Corinthe, comme dans l'église de Saint-Nazaire ou de tout ce que vous voudrez, où sont les philosophes? Vous philosophez? Où sont les érudits? Ces gens qui ont été là, eh bien, finalement, dans les grandes écoles. C'est pas que je veux dire qu'il faut diminuer tout cela. Parce que c'est une question de cœur et d'humilité. Où sont les gens cultivés au milieu d'eux? Où se trouve le logicien, celui qui a la logique, une logique subtile? Où est le dialecticien habile parmi vous? Le critique expert dans les domaines des choses, finalement, de ce monde? Moi, je bénis le Seigneur qu'il y a aussi dans nos églises des gens de distinction. C'est vrai. Et ce n'est pas pour faire un rapport méprisant ou pas, mais moi je dis que Dieu sauve à la fois les gens haut placés comme les gens qui sont finalement tout à fait des simples gens, tout simplement. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de distinction. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'église de Corinthe, parce que il faut bien comprendre que la mentalité corinthienne, donc grecque, était une mentalité qui était pétrie de philosophie et de mythologie. Parce que quand on lit la Bible, il faut voir aussi le côté historique, hein. Faut pas non plus. Où sont les brillants orateurs, comme il y en avait peut-être à Corinthe ou à Athènes? Les savants chercheurs du temps présent, qui peuvent expliquer ceci, qui peuvent expliquer cela? Eh bien, Paul dira que tous ces gens, qui ne font pas partie de l'église de Corinthe, parce que ça, c'est de la folie, ils n'ont pas à rentrer dans cette considération, eh bien, toute leur science de ces gens-là, hier comme aujourd'hui, se limite à des choses éphémères d'ici-bas. C'est le monde dans lequel on est, ce monde des arts, ce monde de la culture, ce monde où on parle de formation sur formation et déformation peut-être pour arriver au bout. Mais toujours est-il que c'est le monde dans lequel on est. Mais Paul avait aussi le même problème. Eh bien, il nous dira dans le texte que nous venons de lire que Dieu, finalement, eh bien, a voué à l'impuissance toute cette sagesse du monde et il en a démontré l'incapacité à résoudre les problèmes. Et on le voit. On le voit, on le comprend, regardez. Vous avez des conférences au sommet pour la paix. Vous avez des gens qui se dévouent de tout cœur et je ne veux pas mettre en doute finalement leur authenticité dans leur démarche. Ou le plus souvent c'est laïque, c'est en dehors finalement de Dieu, mais même ceux qui sont prétendument chrétiens, s'il n'y a pas véritablement la pensée de Dieu et la vie de l'esprit, ça ne mènera rien. Et on s'aperçoit qu'on tourne en rond. Là où on parle de paix, il n'y a que la guerre qui se prépare. Là où on parle de pouvoir aider les autres, on s'aperçoit que finalement, eh bien, c'est une vague et une vague qui submerge le monde et on ne sait plus quoi faire. Parce qu'il nous manque l'essentiel. Donc la sagesse, toutes ces théories, toutes ces choses qui sont mises en pratique pour essayer d'aider l'homme, n'arrivent pas finalement à surmonter les problèmes qui sont des problèmes insolubles. Alors on nous dit que c'est de la folie. Moi je crois que c'est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Parce que si Dieu est capable de transformer un homme dans son cœur et de le convertir à lui, il est capable de changer le monde. Et le monde un jour sera changé à cause de Jésus-Christ. Et pas par la sagesse des hommes. on s'aperçoit que jamais, avec toutes ses philosophies, eh bien l'homme est parvenu à trouver Dieu, à le comprendre. On cherche, on explique, on s'égare dans toutes sortes de raisonnements, de faux raisonnements, et on s'aperçoit que plus on va, plus quelque part, eh bien, on s'égare, oui. Il est bien dit dans le livre de l'Ecclésiaste, si ma mémoire est fidèle, que plus l'homme cherche à comprendre, moins il comprend. Et il s'égare. Si seulement les hommes pouvaient lire la parole de Dieu. Mais dans le bon sens, hein. Pas en essayant d'en faire un tremplin pour surfer dans toutes sortes de considérations. Ouais. Eh bien, il nous est dit tout simplement que Paul avait ce souci d'apporter un message qui semblait de la faiblesse, qui semblait quelque chose de rien du tout, et qui, avec ce message, pouvait, parce que quand même, faut dire que le christianisme évangélique, ça fait 2000 ans qu'il est encore sur pied. Il est encore là. Mais pour tous ceux qui consentent à y mettre leur confiance et leur foi. Tandis que d'un côté, les Juifs sont en quête de signes miraculeux, comme tout a été de son histoire dans l'Ancien Testament. Les miracles qui pleuvaient d'une manière ou d'une autre, sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la manne, et puis toutes sortes de choses au cours de son histoire. Les Juifs sont sensibilisés à voir des miracles. Et ils se disent, si je vois un miracle, je croirai. Jésus le dira, par exemple, à ces Galiléens qui étaient pourtant des Juifs, mais qui étaient véritablement tellement sensuels au sens moral du terme. Il dira, mais si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez point. Parce que est-ce que c'est le miracle qui nous donne de croire? Non, c'est la parole de Dieu qui nous donne la foi pour croire au miracle et voir le miracle s'accomplir. Et nous voyons que les Juifs avaient une grande sensibilité. Et aujourd'hui, je le retrouve même dans nos églises. Même dans nos églises évangéliques, c'est vrai qu'il y a eu un passé. Mais le passé peut de revenir le présent aujourd'hui. Il reviendra le présent miraculeux et surnaturel dans la mesure où on restera sur la parole. Autrement, ça sera qu'un ersasme. Ça ne sera qu'une pseudo-manifestation qui sera beaucoup plus charnelle que spirituelle. Et aujourd'hui, on le voit, on bat un petit peu le pavé en disant, voilà, miracle ici, miracle là, la guérison, ceci, cela, etc., etc. Mais est-ce que c'est le miracle de la guérison ou autre chose? Bien que je respecte la guérison divine, parce que c'est la voie royale pour ceux qui sont malades. Mais je me dis que quelque part, si la guérison, elle existe, elle doit nous amener au salut. Parce que si on est guéri et qu'on n'est pas sauvé, ça ne sert à rien. Si on est même arraché de la mort, une fois miraculeusement, de toute façon, un jour ou l'autre, il faudra mourir. Non, ce qui est important, c'est que il faut pas renverser les choses. Et les Juifs disaient à Jésus, fais un miracle devant nous. Jésus leur dira, mais il n'y aura pas d'autre miracle pour vous que celui de Jonas. C'est-à-dire que, quelque part, c'est répondre à l'incrédulité des gens. Hein. Jésus ne s'est jamais plié à des miracles d'exhibition. Ça, c'était le problème des Juifs. Et c'est le problème également dans nos églises. On veut voir des miracles. Si le pasteur ne fait pas de miracles, excusez-moi, hein, ben vous n'êtes pas en train de me voir faire un miracle, parce que c'est pas moi qui l'ai fait les miracles. Vous êtes d'accord? Bon, ben comme ça, je peux partir en paix. Hein. Mais toujours est-il que c'est pas tétaniser, cristalliser finalement notre foi sur le miracle. Il y a peut-être des chrétiens qui ont dit, ben moi je quitte cette église parce qu'il n'y a pas de miracle. Eh bien, c'est complètement faux. Alors bon, on les laisse partir, hein, après tout. Hein. Mais si vous courez d'un prophète à un autre, si vous courez d'un endroit à un autre parce qu'on vous dit cet homme a un don, etc. D'abord, le don de guérison, il n'est pas permanent. Et il n'est pas transmissible. Bon, qu'on ait un rayon quand même. Hein. Parce que bon, quand même, la théologie biblique et évangélique, elle nous le montre. Mais là, ce n'est qu'une démangeaison d'entendre ou de voir et de vivre des choses qui leur sont agréables. Alors ils vont se donner toutes sortes de docteurs. Et c'est ça le grand danger de l'Église d'aujourd'hui, l'Église évangélique, hein, je parle. Ouais. Alors, en quête de signes miraculeux, ou alors, dans l'autre partie, les Grecs, c'est-à-dire les païens, ceux que nous sommes, les gens du monde, on pourrait dire comme ça, réclament un système philosophique. Quand je comprendrai, je croirai. Eh bien, vous n'êtes pas prêts de comprendre, parce que plus vous allez vouloir chercher dans cette voie, moins vous allez comprendre. Vous allez vous égarer dans un labyrinthe de considérations, de contradictions, de toutes sortes de choses qui vont vous amener, et Paul l'avait vu ça, à à Athènes. Il l'avait vu, tout simplement. Hein. Oui. Nous, nous sommes des proclamateurs et des annonciateurs d'un évangile tout simple, la croix de Jésus, tout simplement. Et les Juifs crient au scandale, il n'y a plus de miracle. Et les Grecs, eh bien là, pour eux, c'est un non-sens ridicule. Parce que si vous n'y expliquez pas par l'intelligence, le cérébral et la matière grise, alors à ce moment-là, il n'y a pas de compréhension possible. Donc, ils restent finalement perdus, les uns comme les autres. Scandale pour les Juifs qui attendent un Messie glorieux. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont crucifié Jésus. Ils ont vu un simple homme qui venait d'une région perdue, province de Palestine qui s'appelait la Galilée. Ils l'ont vu marcher avec des sandales, avec un manteau de misérable. Enfin, je pense qu'il était bien habillé, Jésus. Il n'avait pas de cravate comme moi, mais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, une chose qui est certaine, c'est qu'ils se sont dit, c'est ça notre Messie. Allez hop, vous le débarquez, vous le crucifiez, on ne veut pas entendre parler. Nous, nous voulons que vraiment un Messie qui rentre dans le palais de Jérusalem et qui marque tout son rayonnement de sa divinité. Ben, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et si vous attendez des choses éclatantes, ben, vous les verrez pas, mes frères et sœurs. Pas possible. Donc, scandale pour les Juifs, mais aussi pour ceux qui cherchent le salut dans leur propre justice, parce que c'est ça ce que ça a développé. Nous sommes justes, nous irons tous au ciel. Eh ben, c'est pas garanti, hein. Parce qu'il faut se repentir. Il faut pleurer sur nos péchés. Il faut mourir à soi-même. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Alors, tout cela, c'est véritablement un non-sens. On peut le dire dans un sens ou dans un autre. Le verset 24 à 25 nous dit ceci. Mais la puissance de Dieu est sagesse, mais puissance de Dieu est sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, c'est pour tous les hommes. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ah, la supériorité infinie selon l'apôtre Paul, supériorité infinie de la sagesse de Dieu dont la preuve est sa puissance. Il n'y a pas de plus grand miracle que la puissance de Dieu. Quand un homme se convertit et naît de nouveau, c'est plus grand encore que le miracle de la guérison divine pour un aveugle qui voit, qu'un boiteux qui marche, ou un cancéreux qui, eh bien finalement, eh bien, est guéri de sa maladie. Le plus grand miracle, il n'est pas visible, le plus grand miracle, il est intérieur, il est à l'intérieur de nous-mêmes, naître de nouveau. J'étais perdu, je suis sauvé. C'est plus qu'encore, j'étais aveugle et maintenant je vois. Parce qu'un jour ou l'autre, nos yeux se fermeront. C'est transitoire, c'est temporaire. Tout simplement. Preuve de sa puissance pour le salut des hommes qui croient en lui. Mais pour tous ceux qui ont perçu son appel, l'appel de Jésus, l'appel de l'évangile, tant juifs que grecs, nous l'avons lu dans notre première lecture, ce Christ que nous prêchons se manifeste comme la puissance même de Dieu, aussi bien que sa sagesse. Et nous allons voir en quoi est la sagesse maintenant de Dieu. Car ce qui paraît folie de Dieu contient plus de sagesse que celle qui vient des hommes. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. La faiblesse de Dieu, je dis bien la faiblesse de Dieu, dépasse en force tout ce que les hommes peuvent réaliser. Et nous en arrivons maintenant à une petite considération de ce que nous sommes les uns et les autres dans l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Verset 26. « Considérez, dit Paul, mes frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Nous avons toute une société dans nos églises. Des hommes qui ont des situations, des prophéties, des hommes qui ont de l'instruction. Mais nous avons aussi, et nous accueillons, Dieu merci, des gens qui étaient peut-être encore hier à la rue, qui étaient aux prises avec l'alcoolisme, avec la drogue. Remarquez, vous savez, les grands comme les petits, intellectuels ou autres, ils peuvent avoir les mêmes atavismes. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu ne fait pas de distinction entre les pauvres et les riches, entre les intellectuels et puis ceux qui sont d'une culture tout à fait modeste et normale. Parce qu'on peut peut-être être intelligent et ne pas l'être hein, dans certaines circonstances ou autre chose. Et là, nous avons un cliché dans la composition du peuple de Dieu. Qui sont les sauvés? Parmi vous les sauvés? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quelle instruction? Quelle éducation vous avez reçue et ceci et cela? Qu'est-ce que vous savez? Oui. Il y a une question de distinction de... Il n'y a pas de distinction, pardon. De rang, de sang, ou tout simplement, voilà. Le choix de Dieu est stupéfiant. La preuve que le message évangélique est une folie aux yeux du monde, c'est le petit nombre de sages et de puissants que l'église de Corinthe comptait dans ses rangs. Vous savez pourquoi? Parce que dans une ville comme Corinthe, avec la prédication de Paul, eh bien les Corinthiens, qui ne s'étaient pas convertis, et il y en avait beaucoup, c'était la majorité, on n'aime pas passer pour fou quand on se croit sage soi-même. C'est vrai que c'est plutôt humiliant, hein. Et quand on se croit instruit, intelligent, on n'aime pas passer pour fou. Mais la gloire de Dieu, mais gloire à Dieu, cette folie n'en est pas moins en train de faire la conquête du monde. Parce que c'était les Juifs qui attendaient le Messie, et c'est pas ceux qui étaient à la synagogue et dans le temple qui ont accueilli Jésus. C'était ceux qui étaient dans la rue, les publicains, les gens de mauvaise vie, les prostituées. Eh bien, c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est pas les gens qui ont un cerveau à 10 étages ou 15 étages, je ne sais pas comment ça on peut le représenter, mais toujours est-il que c'est pas ceux-là qui sont les plus nombreux. Parce que pour eux, l'évangile, c'est un obstacle. La croix de Jésus, c'est un obstacle. Ils se disent, vous n'allez pas me faire croire des choses pareilles. Ce sont des choses pour les enfants, pour les endormir. Non? Et voilà, justement. Oui. Parce que c'est ce que je disais. La gloire de Dieu, la folie de Dieu, c'est justement, de conquérir le monde. Et il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de riche, de pauvre, il n'y a pas de ceci et cela. Et puis même, on ne parle pas des couleurs et de religion. Parce que cette sagesse-là, cette conquête-là de Dieu, eh bien, elle glorifie Dieu en montrant à la fois sa sainteté. Dieu est saint. Il est juste. Il ne fait pas de distinction. Dieu est amour. Il a horreur du péché. Et il aime le pécheur. Vous savez, il a horreur du péché, mais il aime le pécheur. C'est ça la grande différence. Cette folie, qui est la prédication de la croix, eh bien Dieu est venu, à cause de Jésus-Christ, de notre foi en Jésus-Christ, à nous conquérir, si bien que nous sommes aujourd'hui en lui, nous faisons partie de sa famille et nous sommes unis les uns les autres. C'est un miracle d'avoir rassemblé des gens, parce que bon, quand on est dans un parti politique, c'est qu'on pense la même chose, on a les mêmes options. Dans une démarche sociale, c'est pareil, hein, il y a différentes catégories, mais dans l'Église... C'est véritablement la mosaïque de Dieu. Il y a toutes les couleurs, il y a tous les genres, toutes les instructions. Et nous nous appelons frères et sœurs. Il n'y a pas de dire, voilà, monsieur un tel, et puis le petit qui est à côté, non. On est tous, finalement, unis en Jésus-Christ. C'est, finalement, eh bien, le miracle de Dieu. C'est ce que Paul voulait tout simplement dire. Paul le dira d'une autre manière. Regardez dans votre propre communauté, vous qui avez répondu à l'appel de Dieu, sont-ils nombreux ceux que le monde considère comme des savants? Y a-t-il beaucoup de gens réputés, de sages, de personnalités influentes, de membres des classes dirigeantes? Non. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les gens intelligents. Parce qu'ils sont orgueilleux. Et le problème de leur intelligence, c'est qu'ils sont orgueilleux. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de la mêlée, hein. Dieu a délibérément pris ce qui est faible et chétif, malade, pour faire honte aux puissants. Ce qui n'avait ni faiblesse, ni noblesse, ni distinction ici bien, Dieu les a distingués et les a pris pour renverser l'ordre existant. C'est une véritable révolution que l'évangile, mes frères et sœurs. C'est une révolution, et nous sommes des révolutionnaires. Brrr. Ne prenez pas les armes, hein. Mais notre idée est une idée révolutionnaire. Le christianisme que Jésus est venu nous apporter, c'est une idée révolutionnaire. On va toujours chercher ce qui est en haut. Dieu a pris ce qui est en bas, même dans la boue, pour en faire véritablement des gens qui, eux, vont devenir des grands personnages, si l'on peut dire. Nous allons hériter le royaume des cieux. Les autres descendent, nous on va monter. Et puis je termine, versets 29 à 31. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu, car, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse. Il a été fait justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. L'Évangile anéantit les prétentions de l'orgueil humain. C'est bien le problème. C'est pas un problème, c'est la solution. Mais je veux dire que pour le monde qui veut refuse de croire, incrédule, parce que l'Évangile de Jésus-Christ a tout accompli à notre place, alors que peut faire l'homme avec sa sagesse, avec sa raison, avec son intelligence, avec ses théologies religieuses? Que peut-il faire pour être sauvé? Alors il a inventé toutes sortes de doctrines, toutes sortes de mortifications, toutes sortes de démarches mystiques, ascétiques, pour dire, eh bien, nous allons aller au ciel par nous-mêmes et Jésus est descendu pour nous y emmener. On n'a pas besoin d'y aller nous-mêmes. Rien, sinon la foi. Et la foi, je voudrais le dire, c'est le contraire de la loi qui rend les hommes orgueilleux. La loi rend les hommes orgueilleux. J'y suis arrivé, j'ai mis la loi en pratique. Ben, on se trompe complètement. Parce que la foi, c'est tout à fait le contraire. C'est de recevoir la grâce et de nous abandonner entre les mains de Dieu, tout simplement. Alors ainsi, toute créature ne pourra s'enorgueillir en présence de Dieu et se faire prévaloir de quelques titres devant lui. Est-ce que vous êtes dit, quelquefois, vous-même, devant Dieu, dans votre prière intime, « Je suis un bon chrétien, Seigneur, hein ?» Sans moi, l'Église ne tournerait pas. Le royaume de Dieu serait triste. Et ceci et cela, quelle folie! Quelle folie! Seigneur, je me sens si petit. Je me sens si incompétent. Je me sens si peu de chose. Mais je crois en Jésus-Christ. Et ce que je le suis en Jésus. Et c'est lui qui est ma victoire. Et à commencer par moi-même, certainement. Alors, si nous vivons en communion avec Jésus-Christ, dans l'esprit, selon la prédication, qui est une prédication spirituelle, pas religieuse, alors c'est à Dieu seul que nous pouvons justement, que nous devons tout, en quelque sorte, et écouter ce qu'il a fait de nous. Il nous est dit qu'en Jésus-Christ, il a été fait pour nous sagesse, pas la sagesse des hommes. Il a été fait pour nous justice, c'est-à-dire que la justice de Dieu a été satisfaite parce que quelqu'un a payé le prix à ma place. Et je le crois. Il a été fait sanctification. La sanctification, c'est que quelque part, je désire, et non pas comme un devoir, mais comme un acte d'amour, que finalement, jour après jour, que Dieu me donne de vivre, c'est lui qui fasse son œuvre pour me changer et me transformer, et faire de moi un homme nouveau, et lorsque je serai prêt à partir dans l'éternité, je puisse être emporté comme une gerbe, mûre en son temps. C'est ça ce que le Seigneur veut. Sagesse, justice, sanctification et rédemption, parce que la rédemption c'est un rachat. Oui. Nous ne sommes plus condamnés, nous ne sommes plus condamnables, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puisque quelqu'un a payé le prix. Et c'est pas un prix avec des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est à cause du sang de Jésus-Christ, et j'y crois. Et c'est ça toute la valeur de la croix de Jésus. Et vous savez, quand on prêche la croix, et autant qu'on prêchera la croix, autant qu'on prêchera le nom de Jésus, la croix, la résurrection de Jésus, il y aura toujours une onction du Saint-Esprit sur les messages. Même s'il est difficile à comprendre ce matin. Parce que c'est pas forcément simple. Mais nous avons donc en Jésus toutes ces choses qui ont été faites. Et ça, c'est la suprême sagesse de Dieu. La croix nous humilie, mais sans nous avilir. Elle nous humilie, la croix, mais sans nous avilir. Elle nous élève en dignité d'enfant de Dieu. Alors, Paul dira, et je finis simplement, « Lorsque je suis allé vers vous, aux Corinthiens, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Non. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est ça ce qu'il faut qu'il continue dans nos églises, que nous prêchions Jésus-Christ crucifié. C'est l'essentiel. et il parlera de ses souffrances. Il dira moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Écoutez bien, c'est la fin. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, sur la puissance de l'esprit de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Vous pourrez le réécouter, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même un message assez constitué, mais une chose qui est certaine, c'est ça ce qu'il faut que nous gardions. Nous ne sommes pas venus pour finalement nous glorifier, mais nous sommes sauvés pour que Dieu soit glorifié à travers la folie de la prédication qui est en Jésus-Christ, folie de la croix. Que Dieu nous bénisse, on va prier simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que Seigneur, c'est de l'inattendu. Quelquefois, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons de l'ancienneté dans notre vie chrétienne, parce que nous avons fait des expériences, parce que nous lisons bien notre Bible, parce que nous prions beaucoup ou peu, mais une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas tout cela qui rentre en ligne de compte. En effet, Seigneur, ce que nous avons besoin de savoir, c'est que du début jusqu'à la fin de ton appel, nous restons que des hommes. Nous restons, Seigneur, que des hommes fragiles, vulnérables, sensibles encore parfois au mal. Mais une chose, Seigneur, si nous vivons, nous vivons à cause de Jésus-Christ, et non pas d'un Jésus historique, non pas d'un Jésus qui raconte de belles histoires, non pas un Jésus qui touche et qui guérit seulement, mais un Jésus mort à ma place et ressuscité pour que je puisse avoir la vie éternelle. Seigneur, et c'est souvent dans cette faiblesse, dans cette précarité, en ressentant, Père éternel, que je ne suis pas grand-chose, que je peux m'approcher de toi, alors à ce moment-là, quand je suis vidé de moi-même, toi tu me remplis de ton esprit. Parce qu'il ne peut pas y avoir de place pour être, en effet, eh bien là, plein de moi-même et rempli de l'esprit. L'esprit de Dieu dans notre vie veut toute la place. Et nous voulons te dire ce matin humblement, Seigneur Jésus, prends toute la place dans ma vie. Et merci Seigneur parce que tu passes dans les rangs. Tu nous aides à comprendre tout cela. C'est vrai que c'est pas très très simple, mais une chose qui est certaine, c'est que moi, je veux simplement terminer avec cette parole de Jean-Baptiste lorsqu'il a vu Jésus arriver vers lui. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans nos vies. C'est comme ça que nous glorifierons ton nom. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.